7h26. L'heure de retrouver à Paris la revue de presse internationale avec Thomas Cluzel. Bonjour Thomas.
Bonjour Marc. C'était mercredi dernier, Markus Nirt, maire bénévole d'une petite bourgade dans l'est de l'Allemagne, a décidé de démissionner, un geste qui a suscité un vif débat en Allemagne. Pourquoi ? Parce que si l'élu a dû renoncer à son mandat, c'est qu'il se sentait menacé par des néo-nazis depuis qu'il avait voulu accueillir dans sa commune une quarantaine de réfugiés dans un bâtiment inoccupé du village. De quoi s'attirer donc la haine du parti néo-nazi NPD, lequel a aussitôt organisé des manifestations contre lui, raconte The New York Times. De son côté, le maire sans étiquette s'attendait à ce que la sous-préfecture le protège des manifestants venus de différents endroits du pays, sauf que le sous-préfet restait passif, explique le journal Arner Zeitung. Passif comme d'ailleurs tous les partis politiques et la majorité des villageois. Pas de levée de bouclier, pas de protestation, pas d'opposition. D'où cette question soulevée par son confrère de Leipzig. Vers quel horizon notre démocratie dérive-t-elle lorsqu'un élu local qui s'engage pour le droit d'asile, garanti par la Constitution, est attaqué et menacé par des extrémistes de droite? Et le journal Mannheimer Morgen d'ajouter à la fin « Tout se scande, les étrangers dehors ». Alors, face à ce triste fait divers, je vous propose de vous raconter ce matin le périple d'une famille de réfugiés, justement arrivés en Allemagne après avoir fui les combats en Syrie. Une véritable épopée de celle que vivent des milliers de Syriens depuis le déclenchement de la révolte contre le régime de Bachar el-Assad. Ce voyage raconté dans les colonnes de l'Orient le Jour a débuté en juillet 2013. À l'époque, Goura, instituteur, son épouse et son fils, qui jusqu'à présent vivaient paisiblement, commencent à vivre dans la terreur. Et quand la situation n'est plus supportable, au début de l'été, ils décident de partir, de quitter leur maison, criblée de balles. Objectif, la Suède, où certains de leurs proches sont déjà installés. Alors le voyage commence dans un minibus qui, à la tombée de la nuit, les dépose avec une foule d'autres Syriens à quelques kilomètres de la frontière turque. Le passage de la frontière doit se faire à pied. Nous étions des milliers, dit-il, 2000 peut-être, une version humaine d'un troupeau de moutons, hommes, femmes et enfants en jambes et barbelés. Mais la police des frontières turques est là. Le lendemain matin, la police les conduit au tribunal et après avoir été photographiés comme des criminels, ils sont libérés. La famille prend l'avion jusqu'à Izmir où Goura contacte un nouveau passeur, un turc cette fois-ci. L'attente se prolonge. Le passeur veut être certain que les 7500 euros dont la famille doit s'acquitter pour partir en Grèce ont bien été transférés depuis la Syrie. Et quand arrive enfin le jour J, la famille et une dizaine d'autres Syriens sont envoyés en bord de mer. C'est par voie maritime qu'ils doivent aller en Grèce. En fait, de bateau, il s'agit plutôt d'un canot pneumatique qui peut contenir 4 personnes. Le groupe en compte 10, le ton monte, le passeur s'en va, 5 migrants aussi. De même que celui qui devait piloter le canot, Goura et sa famille ainsi que 2 migrants décident de profiter de la situation. Ils embarquent, ils ne savent pas vraiment conduire le canot ni où aller. Mais parmi eux, il y a un chauffeur taxi, les propulsés capitaine et décide de diriger l'embarcation vers les lumières que le groupe perçoit au loin. Au début, il n'y avait pas de vagues, mais au bout de 10 minutes en mer, il y en a eu qui sont devenues de plus en plus grosses. Nous étions terrorisés. Jamais je n'aurais imaginé vivre un jour une telle situation. C'était un supplice. L'eau entrait partout. Nous pouvions couler n'importe quand. En fuyant la Syrie, je voulais fuir la mort. Mais je l'ai recroisé 10 fois sur la route de l'exil. Arrivé finalement à bon port en Grèce, Goura trouve un passeur qui lui promet de lui trouver un nouveau bateau pour l'Italie. Coût de la croisière 9000 euros. L'embarcation fait 4 mètres sur 5, sur 2 niveaux. 150 personnes doivent y tenir. Nous étions les uns sur les autres, dans le noir absolu de la mer, comme de la marchandise. Certains vomissaient, d'autres s'évanouissaient. Les réfugiés passent 3 jours en mer à dormir les uns à côté des autres, comme des cadavres. En Italie, les migrants sont alors escortés au commissariat. Leur première nuit, ils la passent dans un camp de réfugiés. Dès le deuxième jour, Goura comprend ce qu'il attend. Je ne voulais pas passer les 40 ans restants de ma vie dans un camp sans que personne ne demande de mes nouvelles, confie-t-il. Et la nuit suivante, lui, son épouse et son fils prennent la fuite. À partir de là, Goura n'a plus qu'une idée en tête, atteindre la Suède. Nous avons pris le train en direction de l'Allemagne, mais lorsqu'il s'est arrêté en Autriche, la police a réclamé nos papiers. Nous n'en avions pas. On nous a emmenés au poste où, comme d'habitude, nous avons été photographiés et interrogés. Tous ces pays par lesquels nous sommes passés ont notre photo, mais personne n'a jamais pu prononcer notre nom correctement. En Allemagne, ils ont reçu un permis de séjour d'un an qui a ensuite été renouvelé pour 2 années, mais ils n'ont pas été reconnus comme réfugiés. Pourquoi ? Parce que nous n'avions plus de passeport et parce que nous n'avons pas menti. Nous n'avons pas dit que notre maison a été détruite. Nous n'avons pas dit que nous étions membres d'un parti, que nous avons été emprisonnés ou que nous avons combattu. Nous n'avons pas inventé des choses pareilles. Aujourd'hui, cela fait plus d'un an que la famille est installé en Allemagne. Goura a renoncé à tenter de faire passer sa famille en Suède. Il aimerait un jour rentrer en Syrie, mais sait que ce sera difficile, surtout sans passeport ni carte d'identité. Ce qui lui manque le plus, c'est sa famille, sa mère surtout. Avant de quitter la Syrie, Goura a enlacé sa mère. « J'ai respiré son parfum, dit-il, pour ne jamais l'oublier. »